Alors, on dit quoi aujourd'hui, tout particulièrement, on se le dit avec le cœur, les yeux et la voix, bonne année.
Bonne année à tous, du fond de mon cœur, bonne année.
Et en chantant,
bonne année à tous, bonne année, bonne santé, que vraiment la lumière habite votre cœur, que les sous rebondissent dans le porte-monnaie.
Ça sera la plus belle année.
Pascal Paradou.
Première émission de l'année et première invitée, la grande, l'immense, la formidable, la drôlatique et talentueuse Marianne James. Bonjour.
Oh, que ça fait du bien. 1er janvier, encore du compliment. Vous en avez encore. J'ai l'impression d'être une grosse, grosse minette, une chatte, là, comme ça, qui vient se faire gratter le dos par le Paradou.
C'est un peu ça, avec une grosse, grosse tinière quand même.
Oui, hein. Grosse crinière aujourd'hui. Vous êtes une chatte avec une grosse crinière. J'ai encore un rond de fossile. Je peux être honnête.
Oui.
Je ne me suis pas démaquillée hier soir.
Et alors ?
Ben, je me suis endormie avec les fossiles en travers du lit. Je suis un peu sur la redescente, pour être très, très honnête.
D'accord, mais vous allez bien.
Je suis heureuse d'être là.
Vous avez l'air parfaitement bien. Alors, on s'est souhaité la bonne année. On pourrait s'embrasser.
Oui, on
pourrait, mais on est un peu loin là, et puis il y a les micros qui gênent, on fera
dès
ça.
Dès qu'on a lâché les auditeurs, je peux vous dire que vous y passez, Pascal.
Est-ce que vous vous êtes embrassé sous le gui hier ?
Il n'y avait pas de gui, mais on s'est embrassé, ouais, avec sincérité. On n'était pas nombreux, mais c'était des gens que j'aime infiniment.
On peut vous souhaiter quoi ? On souhaite quoi aux auditeurs ? On nous souhaite quoi ?
Alors, vu mon âge maintenant, on va faire simple, la santé. Donnez-moi la santé, je m'occuperai du reste. Je veux dire la santé, avoir mon cœur qui tient bien à faire mes folies sur scène, malgré l'embonpoint, continuer à monter mes escaliers sans ascenseur, la mémoire, hein, pour avoir eu quelqu'un que j'aimais infiniment, qui est parti d'Alzheimer il n'y a vraiment pas longtemps, ma petite maman que j'embrasse. 1er janvier sans elle, j'ai un peu mon cœur qui cogne, mais... qu'on aille bien, parce que après, quand le corps et l'esprit vont bien, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On peut tout faire après.
Donc on peut chanter, on peut rire, et avec vous, quand même, c'est obligatoire.
Ah, yeah, c'est obligatoire ? Non, si vous avez envie d'être triste, vous savez, je ne suis pas toujours joyeuse et bien lunée. Je suis parfois très, très mal lunée et vieux poux, quoi. Qui n'est pas contente, la vraie française qui grogne contre tout le monde.
Mais quoi. J'ai du mal à imaginer ça, très franchement.
Oh, je sais bien le faire.
C'est vrai ?
Oui, je sais bien le faire. Généralement, ça arrive avec une crise de misanthropie. Je fais des autruchites, moi. Vous savez ce que c'est qu'une autruchite ?
Faire l'autruche.
Ah oui, mais elles sont belles, elles font 3-4 jours quand même. Sans prendre le téléphone. Hein.
Mais ça peut être des bonnes résolutions de ne pas faire l'autruchite.
Alors, il y a des autruchites qui sont liées au « je dois reposer ma voix, mes jambes, mon dos, etc. » Et effectivement, c'est beaucoup d'eau à boire, beaucoup de sommeil, beaucoup de silence. Ça, ça fait du bien. Mais les autruchites de ras-le-bol des gens. Celles-là, elles sont pas mignonnes. Voilà, je les aime pas.
En tout cas, actuellement, Marianne James, vous sillonnez la France avec votre spectacle. Tout est dans la voix. Titre qui ne peut que me séduire et qui dit aussi tout ce que vous êtes, c'est-à-dire à la fois drôle et sérieuse. Et j'ai l'impression que les deux vont ensemble.
Ben, le chant, c'est super drôle à faire. On se prend des barres de rire à essayer de faire vibrer son corps, sa gorge et d'entendre ses aigus venir frapper notre propre cerveau. Donc, il y a quelque chose d'enivrant à faire du chant et même à l'enseigner. Et d'un autre côté, c'est très sérieux. Et on n'a pas envie que les gens se font mal aux cordes vocales et on a envie que finalement, ils sont venus pour chanter un petit air d'opéra, juste un petit air pas trop dur. Et on a envie qu'ils y arrivent, on a envie qu'ils s'offrent ça. Ouais.
Dans ce spectacle, vous racontez vos débuts. 11 ans, premier cours de guitare, avec le père de Michel Petrucciani, immense pianiste.
Quelle était la probabilité que moi, petite provinciale, je tombe dans la famille Petrucciani ? Pour apprendre le jazz à ce point-là et pour être pas trop mauvaise, quoi. De la sixième à la terminale, c'était nos voisins. On était place du marché avec mes parents pâtissiers. Et Petrucciani, le papa, donnait des cours de piano et de guitare. Rue Pierre-Julien, à vraiment 60-80 mètres de... Donc il était client de la pâtisserie. Donc, mon père m'emmenait prendre des cours dès l'âge de 11 ans dans cette famille, avec Michel déjà au piano, qui n'allait pas à l'école à cause de cette grave maladie qui s'appelle la maladie des os de verre. Et c'est super parce que j'étais son ami, parce que des gamines de 11 ans. Lui, il avait 11 ans, Michel aussi au piano. Il n'y avait pas beaucoup de mômes. Et d'ailleurs, Tony Petrucciani avait dit, mon père Maurice, tu sais, les filles et le jazz, les filles et la guitare, ça ne tiendra pas. Et c'était en septembre 73 et à Noël, j'ai entendu Tony Petrucciani, Chani, le père, dire à mon père Maurice, oh Maurice, ta petite, elle joue comme un mec.
C'était alors, un compliment.
Ah bah attendez, c'est the compliment. Hein.
C'est the compliment. Ah, oui. Mais alors, c'était la guitare. Comment vous avez découvert votre voix? Et je parle de la voix avec un X. Hein.
Parce que je suis un peu feignante. J'étais pas mauvaise en guitare, mais au lieu de faire tous les exercices que me donnait Petrucciani, c'est-à-dire toutes les gammes de jazz en do septième mineur, en machin, enfin des grandes gammes et tout, au bout d'un moment, au lieu de les faire à la guitare, au moins, je les faisais à la voix. Donc, je faisais du Sarah Vaughan, Sarah Vaughan, ou Ella Fitzgerald. Il s'est dit que j'étais une petite fille joyeuse, un peu débordante. Il s'est dit, je vais lui faire écouter avec un bon vinyle de Lima Sumac.
Mambo, mambo.
Artiste voilà. Qui montait dans les trucs. Et comme j'ai suivi, que j'ai fait mambo, mambo, ils en ont parlé avec mes parents, en disant, mais la petite, là, elle a 3-4 octaves de voix, je pense qu'il faudrait qu'elle aille aussi vers le chant. Et je suis allée vers le chant.
Et vous êtes montée à Paris, 10 ans de conservatoire. Hein, les fossiles s'agitent. Ouais. Et vous allez donc devenir la diva que l'on connaît, un peu exubérante, un peu castafiore, avec un spectre vocal qui impose le respect. Mais comme vous le dites dans votre spectacle, chacun son lot.
On n'est pas tous égaux devant la voix. Oui, on n'est pas tous égaux. L'humanité nous a offert Maria Callas, mais aussi... Non. Non. L'humanité nous a offert Maria Callas, mais aussi Carla Bruni. E cento trappole prima di cedere sarò una vipera, sarò. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Ah non, 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 ça va pas être possible. Allez, suivante.
Marianne James, suivante, vous avez entendu ce mot-là, vous avez connu ce système des auditions.
Et comment?
Pour être artiste lyrique ou jazzwoman?
Jazzwoman, mais de toute façon, rien n'a marché. Moi, je suis montée avec le bac et je suis montée à Paris pour passer des auditions en 1980, 81 et 1982. 3 ans donc d'audition. Et je vais vous en raconter qu'une d'audition pour vous dire l'état d'esprit à l'époque. Je suis dans un cabaret à Montmartre, il est 16h un samedi. Le cabaret est fermé puisqu'il va ouvrir que le soir. Ça sent la clope froide. Il y a simplement le directeur. Il a allumé 2 loupiottes rouges sur 2 petites tables rondes à côté de lui. Une gamelle, un spot sur la scène. Je suis là avec ma guitare et je chante, je crois, « Lullaby of Birdland, that's why I always hear when you sigh, etc. Never in my woodland. » Je ne le chantais pas trop mal, quoi. Il me regarde à la fin et il me dit super gentiment, en plus, le mec était tout sauf un con. Il me regarde et dit « Mais... enfin, mademoiselle, vous voulez chanter du jazz, mais vous n'êtes pas noire. » Donc voilà, on mesure dans les années 80 ce qu'on attendait, des étiquettes, tu te chantes du jazz si tu es noire, si tu es noire, tu ne fais pas de l'opéra, si tu viens du jazz et de la funk music, tu n'as pas le bon vibrato pour le classique, etc. Et donc ma liberté, pas de penser, mais de chanter dans plein de styles différents, a commencé à poser des problèmes aux gens qui m'entendaient, parce que effectivement ma voix était hybride et effectivement je ne pouvais pas jouer la comtesse dans les noces de Figaro de Mozart, parce que probablement j'avais chanté au baiser salé la veille en cabaret. Et ça m'a joué des tours. Et puis, ça m'a servi, enfin. J'ai
parce
jamais
que vous
lâché.
Êtes devenue Marianne James. En parce soi, que... c'est une étiquette, presque.
Mais parce que c'est une étiquette et j'ai le droit, maintenant. Enfin, ma liberté a été plus importante que le style vocal. Ma liberté a été plus importante que mes histoires d'amour. Plus même que mon engagement. Ce qui compte le plus dans ma vie, c'est qu'on ne me cornaque pas. Donc je me bats en permanence pour la liberté des peuples, la liberté des lois, voilà, la liberté. C'est ce que je vais souhaiter pour 2025, la liberté aux gens.
Alors la liberté et le bonheur, ça peut être un des vœux pour 2025. Je vous propose donc 3 minutes de pop psychédélique avec Walter Astral. Astral sur RFI et on peut légèrement danser sur les rythmes orientaux dans votre spectacle, Marianne James d'ailleurs, tout est dans la voix. Vous nous racontez que tout est dans le corps aussi, parce que pour parler, pour chanter, il faut que le corps soit présent, réagisse, soit dans le bon ordre de fonctionnement.
Oh oui.
Et dans votre spectacle, il y a un côté leçon de choses.
Il y a leçon de choses, masterclass de chant, vraiment. D'abord, la voix, si vous devez retenir qu'une seule chose sur la voix, c'est que la voix est un instrument à vent, au même titre que l'harmonica, trompette ou saxophone ou flûte traversière. S'il n'y a pas d'air dans les poumons, qui sort par la trachée, dans notre museau, il ne peut pas y avoir de voix. C'est impossible. Les cordes ne vont pas se mettre à sonner. Elles vont se mettre à vibrer, exactement. Donc, on a deux petites cordes vocales derrière la pomme d'Adam pour vous, messieurs. Nous, on va dire ça que c'est la pomme d'Ève. On la voit moins, mais elle est là. Deux petites cordes vocales. Chez vous, les garçons, elles font 20 mm de long, c'est-à-dire 2 cm.
Mais c'est petit.
Chez nous, elles sont plus courtes, entre 13 et 15 mm, ce qui fait que nous sommes à l'octave du dessus, puisque la longueur de la corde, c'est comme sur un piano. Vous savez, quand vous avez déjà vu un piano à queue, les graves du piano, ce sont des longues cordes. Et les aigus, ce sont les cordes très, très courtes, très fines. C'est pareil pour nous dans la gorge. Elles vibrent. Et pour vous dire, vous vous souvenez de la tonalité du téléphone, il y a quelques années, quand on décrochait, ça faisait tout comme ça. On appelait ça la tonalité. Et il se trouve qu'à Paris, à Issy-les-Moulineaux, à Montélimar, chez moi, à New York ou à Kinshasa, la planète entière avait décidé que quand on prenait un téléphone, et qu'on, tant qu'on n'a pas la tonalité, ça servait à rien de faire le numéro. Mais quand on avait ce fameux tout, c'est qu'on allait pouvoir téléphoner et faire le numéro. Et sur la planète entière, cette note, c'était le la à 440 Hz. Et bien, quand je chante ça, tout la RFI, quand je chante ce la là, donc mes cordes ont vibré avec de l'air, mes cordes se sont ouvertes et fermées 440 fois par seconde.
J'en reste sans voix.
Ben bien sûr. Et si on fait l'exemple, vous allez comprendre comment ça marche. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Je suis descendu de 8 notes, l'octave, d'accord ? Donc là, je suis au la qui est en dessous. La, il est beaucoup plus grave. Ben là, mes cordes vocales, pour vous faire la, elles s'ouvrent et se ferment 220 fois. Et les basses profondes russes dans les opéras hein, de russes comme ça, elles descendent encore très bas, elles sont à 110. Et le Contrut, il est à combien? Le fameux Contrut de la Tosca, la Norma, la Traviata, etc. Qui signe tous les airs d'opéra. Le Contrut, c'est 1046 ouvertures-fermetures des cordes vocales dans le gosier par seconde.
Mais vous savez tout, Marianne.
Je sais tout
James.
Sur la voix, j'ai tout appris sur la voix. Et donc ça, je l'enseigne pour dire que c'est des chiffres, mais ça vous fait réaliser à quel point la voix, c'est un trésor. Et si le corps n'est pas engagé avec la voix, il vaut mieux être bête, on dit con comme un ténor.
Ah bon?
Non, le mot n'est pas vilain, on le garde, on ne va pas le biper, ça va, on est au 21e siècle, personne ne va mourir. J'ai dit le mot con, oh là 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 là. Donc con comme un ténor est une expression qui traîne dans les couloirs classiques. Très honnêtement, moins vous réfléchissez à votre voix et plus la voix est belle. Si vous commencez à intellectualiser votre voix, vous allez ennuyer tout le monde, quoi. Parce que la voix, c'est de la tripe, quoi. C'est des vaisseaux sanguins, c'est du ligament, c'est du cartilage, c'est ce fameux diaphragme qui est une usine à air là en bas, le diaphragme qu'on a juste sous les poumons. C'est même le plancher pelvien. Donc ça va très loin.
Dont on parle beaucoup dans votre spectacle.
Mais on en parle parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on fait. Et l'exemple que je prends le mieux, le petit bébé qui vient de naître, un tout petit bébé, il vient de naître, d'accord? Il est tout nu sur sa table allongée, il sort du bain, il pleure parce qu'il a faim. Donc ce petit bébé, par instinct, va nous faire « Ouais! 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 » Hein, c'est chiant, on est d'accord.
Bah ouais, ouais.
Bon, eh bien, il le fait.
Oui.
Vous le verrez tout nu sur sa table allongée. Regardez-le bien, le bébé. Son bidou, le bidou qui est tout rond. Le torse est flanqué parce que le torse n'est pas encore fabriqué. Comme la fontanelle n'est pas refermée. Il est en kit, le bébé, d'accord. Eh bien, vous verrez que ses côtes flottantes sur le son ne rentrent pas comme je suis en train de le faire. Bon, dommage, j'ai pas de caméra. Mais vraiment, regardez, Pascal. Ouais! Ouais! Quand je fais le son, mon corps sur le côté, ça se soulève, c'est le diaphragme qui travaille. Le bébé, par instinct, sait poser sa voix sans se l'abîmer. On ne lui a jamais appris. Donc, on ne doit pas avoir de cervelle, on ne doit avoir que du corps pour chanter.
Alors, tout cela, vous le racontez en partie, en tout cas dans votre spectacle, où vous prenez le public à témoin comme s'il participait à une chorale. Et donc, vous avez la vocation dans votre spectacle de faire chanter tout le monde. Et au vu de ce spectacle, on s'est dit dans l'équipe qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chorales et de chœurs en France. Je crois qu'il y en a plus de 60 000. Dont la chorale de Assaf Matiatiaou, qui dirige à Paris une école de chorale. Et Cécile Lavolo est allée assister à une répétition dans le 19e arrondissement. C'est les Papillons de Lumière.
Je m'appelle Assaf Matiatiaou. Et mon métier à la base, c'est compositeur et pianiste. Et assez rapidement, ici en France, j'ai commencé à donner des cours de piano, après des cours de chant. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à diriger des chorales que j'ai construites moi-même. Et j'ai commencé il y a 6 ans avec une chorale de 4 personnes. Et aujourd'hui, je dirige en total 12 chorales. Il y a presque 300 choristes et on est une équipe de 6 chefs.
À mon avis, si les gens aiment chanter, c'est parce que déjà, ça fait respirer. Et comme ça fait bien respirer, ça fait du bien. Je m'appelle Quentin, je dirige la chorale des Papillons depuis 2 ans maintenant. En plus, en chorale, là, c'est collectif, donc on partage vraiment un super moment, on aime bien rigoler. Donc il y a le côté à la fois, je pense vraiment, au niveau corporel, ça fait du bien, au niveau mental, ça fait beaucoup de bien. Et puis, il y a un plaisir collectif, sans compter qu'au final, ça rend bien, en général.
Ok, ensuite, la même, mais une octave au-dessus.
Je m'appelle Charlotte, j'ai 72 ans. En fait, j'ai chanté depuis plus de 30 ans dans des chorales, mais des chorales, je n'avais chanté que dans des chorales de conservatoire et du chant lyrique, en fait. Donc avec une voix de tête en permanence. Et puis j'ai arrêté un moment et j'avais très envie de reprendre. Je ne savais pas où et je les ai entendus sur les... J'ai écrit à Saf qui m'a dit de venir les écouter aux Voix sur Berge. Et là, j'ai écouté la chorale de Quentin aux Voix sur Berge et ils ont déchaîné les foules sur le canal. Et je me suis dit, c'est là que je veux chanter, même si le répertoire, je ne le connais pas.
À la sangue de sang, à la Est-ce que c'est difficile de diriger des débutants en chant ?
Alors, enseigner aux débutants, ouais, c'est sûr que pour le côté communication, c'est pas toujours aussi évident qu'avec des professionnels ou des personnes aguerries. Mais par contre, une fois justement qu'on trouve le moyen de trouver un terrain commun pour faire ça, en fait, ça roule. Et puis après, en plus, il y a une énergie qu'on retrouve rarement finalement avec des personnes plus habituées à ce genre de moment, quoi. En fait, il y a un plaisir qui est là, et quand ça se passe bien, c'est génial.
Je m'appelle Lorraine, j'ai 27 ans. Avant, quand j'étais en 6e, j'étais dans une chorale aussi, un peu de force par ma mère. Je trouvais ça un peu ringard, mais en même temps, j'aimais bien chanter. Et pendant des années, je voulais toujours chanter, mais j'osais pas, parce que c'est quand même, je suis des fois assez réservée, donc il faut quand même oser, même si on est dans un groupe. Donc je me suis un peu forcée, et avec grand plaisir, depuis 2 ans maintenant, presque.
Comment vous faites avec les gens qui chantent comme des casseroles ?
On vit dans une société malade. Qui pense à dire à quelqu'un « tu ne sais pas chanter » et à un enfant, c'est horrible. Les gens savent chanter, ils peuvent chanter. Parfois, ça prend un peu de temps pour savoir comment chanter juste, comment bien s'exprimer, avoir le rythme. Mais casserole, pourquoi on est arrivé là ? Et voilà, pas tout le monde peut chanter comme Céline Dion. J'ai pu l'affirmer, j'ai pu le signer. Et vous pouvez aller au tribunal contre moi si vous trouvez quelqu'un qui ne sait pas chanter.
Tout le monde peut chanter. C'est d'ailleurs le titre de cette école de chorale de Assaf Mati Thiaou. Marianne James, vous confirmez ?
Je confirme.
Même les casseroles peuvent chanter.
Même la casserole peut chanter. Il faut juste accepter en tant que prof que cet élève, ce patient, j'ai envie de dire, pendant quelques séances, une bonne dizaine, une bonne quinzaine, vous casse un peu les oreilles par une justesse tout à fait relative. Mais une fois qu'il aura pris conscience, sans gamberger, sans intellectualiser sa voix, sans se souvenir du nombre de fois où petit on lui a dit « tais-toi, tu chantes faux », eh bien, cette personne, il faut accepter qu'elle chante un peu à l'ouest, puis un jour, ça sera à l'est, au sud, au nord, et quand il aura sa belle rosace, eh bien, il chantera bien au milieu, c'est-à-dire juste, car la justesse ne vient pas des cordes vocales, la justesse vient du cerveau.
Ça vous ravit de jouer depuis des mois et des semaines devant des salles complètes, avec des gens qui se prêtent au jeu de la chorale ?
Alors, excusez-moi, Pascal, ils ne se prêtent pas au jeu, ils se donnent au jeu. C'est à ce point-là, parce que quand même, la réponse que j'attends maintenant, parce que je ne suis pas humble du tout, comme vous pouvez me voir avec ma crinière aujourd'hui, moi j'attends vraiment que les directrices et les directeurs des salles arrivent pour me saluer après le spectacle. On vient signer le Ligne d'Or, on boit un dernier coup ensemble et puis ils rentrent chez eux. Et moi je rentre à l'hôtel, bien évidemment. Et qu'ils nous disent chaque fois, je n'ai jamais entendu ma salle réagir comme ça. Ils connaissent leur clientèle, ils font du tout public, ce sont des centres culturels, etc. Et ils vous disent, je ne savais pas qu'ils étaient aussi coquins, aussi chanteurs, aussi... voilà, quoi.
Et puis vous disiez que la France, enfin vous confirmiez
oui,
le chiffre...
Oui, je confirme par rapport à votre beau reportage.
Que la France est le pays où il y a le plus de chorales.
On est les champions en un du nombre d'associations par rapport à tous les autres pays du monde. Donc l'individualisme français, je doute... Parce qu'on est le premier pays des associations déposées et on est le pays number one au monde par rapport aux millions d'habitants en nombre de choristes, chœurs, choristes, etc. Groupes vocaux, on est le plus... Enfin, c'est beaucoup plus que les Allemands.
Marianne James, c'était vrai en 2024, ce sera vrai aussi en 2025. Chaque semaine, Lucie Bouteloup vient dans l'émission pour décliner une de ses expressions favorites, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal. Alors comme disent nos amis québécois, bonne année grand nez.
Je vois. Et pareillement grande dent.
Eh bien...
Vous connaissiez ma
non, non, non.
C'est des Québécois qui nous ont raconté ça l'autre jour. Alors que peut-on vous souhaiter Lucie ?
Eh bien pour cette année, vous pouvez me souhaiter d'envoyer du bois. Envoyer du bois, donc rien à voir avec les Québécois. Cette expression, vous allez le voir, vient d'une région qui vous tient particulièrement à cœur, parce qu'elle peut être une idée.
Laquelle ?
Bon, j'en dis pas plus. On en parle dans quelques instants avec Géraldine Moinard. Elle est lexicographe aux éditions du Robert. Mais avant, comme d'hab, les propositions...
Des enfants.
pense qu'envoyer du bois, ça veut dire aller vite, parce que quand on envoie quelque chose, ça va plutôt assez vite.
Ça envoie de l'énergie, parce que le bois, bah, on peut faire du feu avec, et donc ça fabrique de l'énergie.
Ça veut dire se faire gronder par ses parents, parce que du bois, c'est dur, et on peut se faire gronder durement.
Moi, je pense que ça veut dire envoyer quelque chose de désagréable, parce que le bois, quand on l'envoie, c'est pas forcément avec des intentions gentilles.
Comme quoi, par exemple?
T'es une tranche de cake.
La puce à l'oreille.
Bonjour Géraldine, bonne année.
Bonjour Lucie, bonne année à toi aussi.
Alors, une réaction aux propositions des enfants, envoyer du bois, de l'énergie, se faire gronder, aller vite, qu'est-ce que vous pensez?
Ah bah c'est, tout ça est très rigolo et très créatif, mais on n'est pas tout à fait sur le sens d'envoyer du bois, qui signifie plutôt, alors d'abord être puissant, efficace, on va dire d'un son, notamment dans le milieu de la musique, du rock qui envoie du bois, qui est très puissant, et puis par extension, être génial, susciter l'enthousiasme. Votre podcast, Lucie, envoie du bois.
C'est un signe de performance et donc d'efficacité, hein, envoyer
oui,
du
c'est
bois.
Ça.
Alors, c'est une expression qui appartient quand même au registre familier.
Oui, évidemment, c'est familier. On ne va pas dire ça dans un contexte formel. Hein.
D'où vient cette expression? Pour quelle raison est-ce qu'on envoie du bois?
Alors, ça viendrait du Pays Basque. Mm-hmm. Au Pays Basque, il y a ce qu'on appelle des jeux de force basques.
Ouais.
Des épreuves de force qui opposent différentes fermes depuis des siècles et qui permettent aux fermiers de mesurer leur capacité physique et leur endurance. Alors, on retrouve des tas de jeux de force basques qui sont basés sur les travaux de la ferme, du bâtiment et des bois.
Oui, je crois qu'on soulève des enclumes, par exemple.
On soulève des enclumes, on soulève des charrettes et on les fait tourner.
Waouh.
Quand même, hein.
Avec
on
les
fait
dents.
Des courses avec des sacs de blé de 80 kilos sur l'épaule.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On lance des bottes de paille à l'aide d'une fourche par-dessus une barre horizontale de plus en plus haute. Et puis on tire à la corde aussi, le fameux tir à la corde qui est très très connu.
Et on scie des troncs.
Et on scie des troncs. Alors on ne les envoie pas, c'est ça qui est étonnant, mais on les scie. On les découpe en tronçons le plus rapidement possible selon un diamètre imposé. Autant vous dire que c'est quand même une belle épreuve de force et que pour réussir, il faut envoyer du bois, donc avoir de la puissance.
C'est une expression qui est très utilisée hein, encore aujourd'hui.
Très utilisée, toujours très utilisée, mais qui connaît un certain nombre de variantes.
Oui, alors on peut envoyer du bois et puis on peut envoyer du pâté.
Du steak.
Du steak, on peut envoyer du lourd également.
Oui, ou du gros.
On peut aussi utiliser l'expression sous une forme plus courte, dire tout simplement que ça envoie.
Ça renvoie. Et puis il y a une variante aussi très rigolote qui est envoyer du poney. Qui est apparu beaucoup plus récemment. Et je pense qu'il y a un jeu.
Poney.
Alors, je ne pense pas qu'on envoie réellement le poney, mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus d'envoyer du pâté. Je pense que l'idée, c'est surtout de jouer. On se rend compte qu'en fait, quel que soit ce qu'on envoie, on peut déformer cette expression et on comprend toujours ce qu'elle veut dire. Donc, c'est vraiment une source de jeu qui est très intéressante.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à ça envoie du bois, Géraldine?
Beaucoup d'expressions familières. Ça déchire, ça décoiffe.
Ça dépote.
Oui, ça déménage.
Ça déménage. Ah oui, elle est très bien celle-là. En tout cas, Géraldine Moinard, je vous souhaite d'envoyer du bois pour cette nouvelle année. Merci d'être venue dans La Puce, une puce que vous pouvez également retrouver sur le site du Français Facile et sur le blog du Robert. Dis-moi Robert. À très bientôt, Géraldine.
Merci, Lucie.
Merci à toutes les deux. Envoyer du bois, c'était une spéciale dédicace pour vous, Marianne James. Hein.
Envoyer du bois, oui. Quel bois. C'est beau, le bois. Alors moi, je fais comme beaucoup de gens, c'est vrai qu'on nous l'avait raconté dans les années 80. Si je vais balader en forêt ou même dans mon propre jardin, je vais embrasser les arbres. Et on leur chante aussi aux arbres, on chante. Et il y a là, les petits écureuils qui arrivent et les biches. Sifflez en travaillant. Tu vois, et elle se prend pour Blanche-Neige.
Marianne James, ils sont morts de rire dans le studio. Et après tout, on est là aussi pour être heureux et sourire. Merci beaucoup, Marianne James. Tout est dans la voie, actuellement en tournée. Dès le 8 janvier, vous êtes à Clermont-Ferrand, puis Bruxelles, Bordeaux, Le Havre, Roissy. Et les Parisiens attendront les 8 et 9 mars pour vous voir à la Cigale. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et encore une fois, une très belle année et à demain.